Chapitre 27. Eskelgorov remua sur sa couchette et ouvrit un œil au moment où Limar Poniet se passait la porte lourdement renforcée. Celle-ci se referma aussitôt derrière lui avec un bruit sourd qui ébranla les murs. Gorov se leva aussitôt et bafouilla. « Poniet, il vous a envoyé ici ?»«
Pur hasard !»
dit Poniet d'un ton amer. « Ou alors c'est encore un coup du mauvais démon qui me tient lieu d'ange gardien ?»«
D'un côté, il y a vous.
Vous venez sur Askon vous fourrer dans la gueule du loup.
De l'autre côté, il y a moi.
Mon trajet, tel qu'il a été communiqué à la chambre de commerce, m'amène à une cinquantaine de parsecs du système en question, juste au bon moment. Pour couronner le tout, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, et la chambre de commerce le sait bien. Êtes-vous encore étonné de me voir ici ?
Soyez prudent,
dit Gorov à mi-voix. On va sûrement nous écouter. Vous avez un brouilleur de champ sur vous ? Poniet se désigna le bracelet ouvragé qu'il avait au poignet, et Gorov parut soulagé. Poniet observa attentivement les lieux. La cellule était entièrement vide mais spacieuse. Elle était bien éclairée, et il n'y régnait pas de mauvaises odeurs.
« Pas trop mal ? » dit-il. « Il vous ménage ?»
Gorov ne tint pas compte de cette remarque. « Dites-moi comment avez-vous pu venir ici ? On me garde au secret depuis presque 2 semaines. »«
Depuis mon arrivée, alors ?
Le vieil hurluberlu qui donne les ordres ici aurait donc ses points faibles ?»«
Il a l'air porté sur les discours pieux, en tout cas, alors j'ai essayé un truc qui a marché. »
« Je suis ici en tant que votre conseiller spirituel. Il y a une chose bien chez les gens comme lui. Ils vous couperont la tête sans hésitation si cela les arrange, mais ils hésiteront toujours à mettre en danger votre âme immatérielle autant qu'hypothétique. C'est ce qu'on appelle de la psychologie empirique.
Oui, monsieur.
Un marchand se doit d'avoir des notions de tout. » Un sourire sardonique naquit sur les lèvres de Gorov.
Et en plus, vous avez fait des études de théologie.
Je vous aime bien, Poniet. Je suis content que ce soit vous qu'ils aient envoyé. Mais le grand maître ne s'inquiète pas uniquement de mon âme. Est-ce qu'il a parlé d'une rançon ? Le marchand fronça les sourcils. Il y a fait allusion, vaguement. Il a aussi menacé de vous envoyer à la chambre à gaz. J'ai préféré éluder la question. Il pouvait facilement s'agir d'un piège.
Il veut donc nous extorquer quelque chose, mais quoi ?
De l'or.
De l'or ?
Poniet fronça les sourcils.
Le métal, vous voulez dire, pourquoi faire ?
C'est leur monnaie d'échange.
Ah bon ?
Et où voulez-vous que j'en trouve ?
Où vous pourrez.
Écoutez-moi bien, c'est très important. Il ne m'arrivera rien tant que vous pourrez en faire miroiter au grand maître. Remettez-lui en, autant qu'il en demandera, puis retournez à la fondation s'il le faut pour en chercher. Quand je serai libre, on nous escortera jusqu'aux limites du système et puis nous nous séparerons.
Poniet lui lança un regard désapprobateur. Et puis vous reviendrez et vous essaierez à nouveau.
C'est ma mission de vendre du nucléaire sur Askon.
Ils vous rattraperont avant que vous ayez fait un parsec dans l'espace. Vous le savez, je suppose.
Je n'en sais rien, dit Gorov. Mais même si je le savais, cela n'y changerait rien.
La prochaine fois, ils vous tueront.
Gorov haussa les épaules. Poniet dit d'une voix calme.
Je dois encore négocier avec le grand maître, je veux tout savoir.
Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé à l'aveuglette. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les quelques remarques, pourtant bien innocentes, que j'ai faites ont déclenché une véritable crise chez sa grâce.
Ce n'est pas compliqué, dit Gorov. La seule façon dont nous puissions accroître la sécurité de la Fondation ici dans la périphérie, c'est de constituer un empire commercial sous contrôle religieux. Nous sommes encore trop faibles pour imposer notre politique par la contrainte. Nous n'avons déjà que trop à faire pour tenir en respect les quatre royaumes. Ponyetz acquiesça.
J'en suis parfaitement conscient. Or, un système qui refuse nos marchandises atomiques est un système qui échappe à tout contrôle religieux
et risque par conséquent de devenir un foyer d'indépendance et d'hostilité, exactement.
Nous sommes donc d'accord. Voilà pour la théorie,
dit Ponyetz.
Maintenant,
qu'est-ce donc exactement qui nous empêche de vendre ici ? Ce serait une question de religion, m'a laissé entendre le grand maître.
Une sorte de culte des ancêtres.
Leur légende parle d'un passé maudit duquel ils auraient réchappé grâce au seul héros simple et vertueux de ces dernières générations. Cette tradition n'est que la transposition mystique de la période d'anarchie qu'ils ont connue il y a un siècle, à l'époque où ils venaient de chasser les troupes impériales et avaient formé un gouvernement indépendant. Les progrès scientifiques, et tout particulièrement l'énergie atomique, s'identifient donc désormais chez eux avec l'ancien régime impérial, dont ils se souviennent avec horreur.
Ah oui. Eh bien, cela ne les empêche pas d'avoir de jolis petits vaisseaux qui m'ont fort bien repéré à 2 parsecs. Pour moi, ces engins sentent l'énergie atomique à plein nez.
Gorof haussa les épaules. Ce sont des reliquats de l'Empire, sans aucun doute. À propulsion atomique, probablement. Ils font avec ce qu'ils ont. Mais le fait est qu'ils refusent d'innover et que leur économie intérieure est entièrement non atomique. C'est cela qu'il faut changer.
Et comment comptiez-vous procéder ?
En procédant par étapes.
Pour vous donner un exemple, si je pouvais vendre un canif laser atomique à un noble,
il serait dès lors dans son propre intérêt de faire voter des lois qui lui permettraient de s'en servir.
Dit comme ça, ça a l'air idiot, je suis d'accord, mais d'un point de vue psychologique, ça tient la route, vous pouvez me croire.
Réussissez des ventes au bon moment et au bon endroit. Choisissez vos cœurs de cible de manière stratégique et vous créerez un groupe de pression favorable au nucléaire à la cour. C'est gagné d'avance.
Et c'est vous qu'ils envoient faire ce travail ? Alors que moi, je ne suis ici que pour payer votre rançon et m'en aller, en vous laissant continuer à essayer.
Vous ne trouvez pas qu'on marche sur la tête, là ?
Pourquoi ?
Demanda Gorof, soudain sur la défensive.
Enfin, tout de même, dit Ponyetz, exaspéré. Vous êtes un diplomate. Vous n'êtes pas un marchand. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé de vous faire appeler un marchand que vous en deviendrez un. C'est une mission pour un vendeur professionnel, voyons. Et moi, je suis là avec un chargement qui est en train de pourrir dans la cale. Sans parler de mon chiffre. Je ne vais jamais y arriver maintenant, c'est sûr, c'est foutu.
Vous voulez dire que vous allez risquer votre peau alors que ce ne sont même pas vos affaires ?
Demanda Gorof avec un pâle sourire. Vous sous-entendez par là que cette histoire est l'affaire d'un patriote et que les marchands ne sont pas précisément renommés pour leur patriotisme ? C'est bien ce que vous voulez dire ?
Exactement. Mais vous savez, c'est le cas de tous les pionniers.
Bon. Dit Ponyetz. Je veux bien reconnaître que je ne sillonne pas l'espace pour sauver la Fondation. Mais mon but, c'est de faire du chiffre, et je vois là une occasion en or. Si j'aide en même temps la Fondation, tant mieux. De toute façon, j'ai déjà risqué ma vie sur des coups qui s'annonçaient bien plus mal.
Ponyetz se leva, et Gorof l'imita. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Le marchand sourit. Je ne sais pas, Gorof. Pas encore. Mais s'il faut faire une vente, je suis votre homme, je n'ai pas l'habitude d'en rajouter, vous pouvez me croire. Mais une chose est sûre, jamais encore il ne m'est arrivé de ne pas faire mon chiffre.
La porte de la cellule s'ouvrit dès qu'il eut frappé et 2 gardes vinrent aussitôt l'encadrer.